Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Yebamot, page 120, Daf Kuf Raf. Bonne écoute et bon limoud.
Est-ce qu'on permettra à la rivale de se marier avant la seconde, si par exemple c'est la seconde qui est venue témoigner que le mari est mort? Si tu dis qu'on accepte le témoignage d'une rivale pour la seconde, même si la seconde ne s'est pas encore mariée, on permettra à la première rivale de se marier, puisqu'on accepte le témoignage. Mais si tu dis que la raison pour laquelle on accepte le témoignage d'une rivale, c'est parce qu'elle n'ira pas jusqu'à se faire à elle-même du mal pour nuire à sa rivale, elle n'ira pas donc s'interdire à son mari pour nuire à sa rivale, dès qu'elle se marie, alors on permettra à sa rivale de se marier. Par contre, si elle ne s'est pas encore mariée, on ne permettra pas à sa rivale de se marier. Alors, qu'est-ce que finalement pense Rabbi Elazar? Alors, la Gemara dit, Tashma, viens, écoute une preuve de notre Mishnah. Rabbi Elazar Omer dit, puisqu'elles ont été permises en Yiboum, elles seront permises à tout le monde. Alors, si tu dis que la raison pour laquelle Rabbi Elazar accepte le témoignage d'une belle-sœur pour le bénéfice de l'autre, c'est parce qu'en fait, nous dirons qu'elle n'ira pas jusqu'à se nuire à elle-même pour nuire à sa belle-sœur. Haïnou, c'est pourquoi donc nous voyons que Rabbi Elazar dit clairement c'est quand elle s'est mariée, on permet à sa rivale ou à sa belle-sœur de se marier. Et là, Yamart Mishum de Tsaramida al-Khaverta, mais si tu dis que la raison pour laquelle Rabbi Elazar accepte le témoignage de la belle-sœur, c'est parce qu'en fait, il pense, discute avec la Mishnah de plus haut d'Afkoufidzaïn, et selon son avis, nous acceptons le témoignage d'une rivale pour le bénéfice de l'autre. Alors, Afal Gavdolin Tsinami, même si elles ne se sont pas mariées, aussi on devrait la permettre. Puisque selon Rabbi Lassadir, en fait, il devait discuter même dans le premier cas de la Mishnah. Shmam, Ela Shmamina, c'est pourquoi donc nous devons déduire de cette Mishnah, Tamad Rabbi Lazar, Mishum de Insivu. La raison pour laquelle Rabbi Lazar permet à la belle-sœur de se marier, c'est parce que l'autre aussi s'est mariée. Velo me kalkela nafsha, nous n'irons pas jusqu'à soupçonner qu'elle se nuise à elle-même pour nuire à sa belle-sœur. Alakma répond, non, de notre Mishnah, ce n'est pas une preuve. Rabbi Lazar, le divrem kamarlu. Rabbi Lazar, en fait, dit ce qu'il a dit dans la Mishnah, selon l'opinion de Chachamim. Et en fait, c'est ainsi qu'il a voulu dire. Le didi, tsaramida le chaberta, selon moi-même, je pense qu'on accepte le témoignage d'une rivale pour sa collègue. Vafal gavdolo intsi man sebinanla. Même si celle qui a témoigné ne s'est pas encore mariée, on permettra à sa rivale de se marier. Et là, le dit trou, mais selon vous qui pensez qu'on n'accepte pas le témoignage d'une rivale pour l'autre, soyez d'accord au moins avec moi que dans le cas où la rivale s'est mariée, donc celle qui a témoigné s'est mariée, qu'on permettra à sa rivale aussi de se marier. Puisque finalement, il n'y a pas lieu de soupçonner qu'elle se nuise à elle-même pour nuire à sa rivale. Donc, ma répond, Verabanan, et les Chachamim disent qu'en fait, même dans ce cas aussi, nous n'acceptons pas le témoignage d'une rivale. Parce qu'il se peut que cette rivale se conduise de la même manière que Shimshon s'est conduit avec les Philistines, quand il a abattu les piliers du temple où il se trouvait entouré de Philistines, et il est mort avec eux. Il a dit ce pasouk dans Shoftim Tetzain, Tamut Nafshim Philistim, que mon âme meurt avec les Philistines. Coup de Kavda, c'est ainsi qu'elle fait. En d'autres termes, les Chachamim la soupçonnent de se nuire à elle-même pour pouvoir nuire aussi à sa rivale ou à sa belle-sœur. Tashma, viens écouter une autre preuve d'une Braïta. Ha'isha shalcha hi ubala limdinatayam, une femme qui est partie avec son mari à l'étranger, uba'a ve'amram et ba'ali. Et elle est venue dire, mon mari est mort, tinase ve'titol k'tuvata, elle se mariera, elle pourra encaisser la k'tuva, ve'tsarata asura, et sa rivale restera interdite. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit, Hoil ve'utrahi, utrana mitzarata. Une fois qu'elle a été permise, sa rivale est aussi permise. Donc là, nous voyons clairement que l'avis de Rabbi Elazar est qu'on accepte le témoignage d'une rivale pour le bénéfice de l'autre. L'agma répond, Emma, c'est ainsi qu'il faudra lire dans les paroles de Rabbi Elazar. Hoil ve'utra ve'niset. Dès que la première a été permise et elle s'est mariée, la seconde aura le droit aussi de se marier. Donc finalement, nous n'avons pas de preuve de cette braïta. Alors la Gemara demande si la raison pour laquelle Rabbi Elazar accepte le témoignage d'une rivale, c'est parce qu'en fait, il ne la soupçonne pas de se nuire à elle-même pour nuire à sa rivale. On n'a qu'à craindre qu'elle est venue avec un acte de divorce, c'est-à-dire en d'autres termes, elle a été divorcée auparavant. et le fait qu'elle, la raison pour laquelle elle dit que son mari est mort, le kalkela le tsara imichavna, c'est pour nuire à sa rivale. C'est-à-dire, en d'autres termes, on n'a qu'à craindre qu'il s'agisse ici d'un cas où elle ne se nuira pas lui-même, parce que de toute façon, elle est divorcée, mais elle ne le dira pas, et elle emploiera l'argument que son mari est mort pour pouvoir nuire aussi à sa rivale. Donc finalement, comment est-ce que Rabbi Lazar accepte ce témoignage de la rivale, même si elle s'est mariée? Alors il m'a répondu, « Idin sivli Israël achinami. » Si cette, celle qui a témoigné de la mort de son mari s'est mariée avec un Israël, effectivement, il a lieu de craindre qu'elle ait été divorcée et qu'elle veut nuire à sa rivale. On n'acceptera donc pas son témoignage. « Hacha b'mayaskinan. » Ici, dans quel cas il s'agit? « D'in sivli Kohen. » Il s'agit d'un cas où elle s'est mariée avec un Kohen. Et elle n'avait pas, si elle avait été divorcée, elle n'aurait pas le droit de se marier avec un Kohen. Finalement, on ne craint pas donc qu'elle nuise à elle-même pour nuire à sa rivale. Aussi, dans le cas de notre Mishnah où on parle du Yiboum, là, si elle fait le Yiboum qui serait interdit si elle avait été divorcée, alors là aussi, sa rivale sera permise. Nouvelle Mishnah. En Meidin, elle a la partouf apanim, imachotem. On ne peut témoigner de la mort d'une personne que si on le reconnaît en voyant son visage avec son nez. Même s'il y a des signes distinctifs sur son corps ou sur ses habits ou ses affaires, quand même, on ne pourra témoigner que si on voit son visage et son nez. On ne peut témoigner de la mort d'une personne qu'après que son âme le quitte, en d'autres termes, après qu'il soit effectivement mort. Même si on l'a vu étant profondément blessé ou bien pendu, ou bien si on a vu une bête sauvage manger de sa chair, quand même, tant qu'on ne le voit pas mort, on ne pourra pas témoigner de sa mort. On ne peut témoigner ou plutôt identifier le corps d'une personne que jusqu'à 3 jours qui suivent sa mort. Après cela, il risque d'être défiguré, et on ne peut pas vraiment l'identifier. Rabbi Yehuda ben Baba Omer, lokola adam velokola makom velokola shaot shavit. Pas tous les hommes et ni tous les endroits, et ni toutes les périodes, ou tous les moments, sont égaux. La Gemara expliquera qu'est-ce qu'il a voulu dire. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une baïta. Padachat velo partsuf panim. Si on voit, si on peut identifier le front d'une personne sans son visage, partsuf panim velo padachat, ou si on peut identifier son visage sans son front, en meidim achi ushnehem imachotem. On ne peut témoigner ou identifier cette personne que jusqu'à ce qu'on voit les deux, c'est-à-dire son front et son visage, avec le nez. Amar Abaye, Abaye dit là-dessus, Beitema Rav Kahana. Il y en a qui disent que c'est Rav Kahana qui le dit, Maïkra, de quel pasouk on peut déduire cela? Ils répondent, du pasouk de Yeshaya Gimel, Hakarat Pneem Antabam. Leur visage dévoile les péchés qu'ils ont commis. Puisque le pasouk emploie le terme de Hakarat Pneem, donc on voit le visage, on peut comprendre aussi d'ici qu'on peut identifier une personne en voyant son visage. Donc il faudra voir son visage pour pouvoir identifier la personne. Abba Bar Marta Dehu, Abba Bar Manumi, Abba Bar Marta qui s'appelait aussi Abba Bar Manumi, Hava Maskebe de Beresh Galutsa, Zuzé. Il devait de l'argent aux membres de la famille de l'exilarque. Aïté Kira, il amenait de la cire, Davak Be Balaita, il en a collé sur un chiffon, Davak Bapute, et il l'a collé ainsi par la cire sur son front. Khalaf Kamayou, il est passé devant eux, donc devant les membres de la famille de l'exilarque, Velobashkerou, ils ne l'ont pas reconnu. Nous voyons bien, donc si on cache le front d'une personne, on ne peut pas le reconnaître. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Afalpichesh Simanim, même s'il y a des signes distinctifs sur son corps ou sur ses affaires, on ne pourra pas identifier le corps d'une personne si on ne voit pas son visage. Si par exemple son visage est meurtri ou autre. Alors Gmara demande, les mêmes rats de Simanim, l'Abdoraita, on peut donc déduire de là que Minatora ne peut pas s'appuyer sur des signes distinctifs, et alors donc la raison pour laquelle on rend un objet perdu en s'appuyant sur les signes distinctifs donnés par le propriétaire, ce n'est pas Minatora, Veraminhi, et on a opposé à notre Mishnah, une autre Mishnah dans Maseret Gitin, Dav Kavzaïn Amudbet. Il s'agit d'un émissaire qui amène un acte de divorce à une femme, et il l'a perdu. Alors la Mishnah dit, Matzo Kashur Bekis ou Berneki ou Betabat, s'il l'a découvert par la suite, étant attaché à sa bourse qu'il reconnaît, ou à son porte-monnaie, ou à son sceau, Oshenimtsa Ben Kelav, ou bien s'il a été découvert parmi ses propres affaires, Afilou Lisman Mirube Kacher, Même s'il l'a retrouvé beaucoup de temps après qu'il l'ait perdu, cet acte de divorce est considéré comme étant kasher. Il pourra le transmettre à sa femme, à cette femme, et elle pourra se remarier. Nous voyons donc bien qu'on s'appuie sur des signes distinctifs pour permettre à cette femme de se marier. Alors pourquoi, en s'appuyant sur des signes distinctifs, on ne peut pas identifier un corps pour permettre à une femme de se marier? La Gemara répond, Amar Abaye, la kashia, ce n'est pas une contradiction. Ha Rabbi Lazar ben Me'avai, ha Rabbi. La Mishnah de Maseret Gittin va selon l'opinion de Rabbi Lazar ben Me'avai, qui s'appuie sur les signes distinctifs, comme nous le verrons par la suite. Ha Rabbanan, alors que notre Mishnah suit l'opinion de Chachamim, qui ne s'appuie pas sur les signaux distinctifs. De Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. En Meidin Alashuma, on ne peut pas identifier une personne en s'appuyant sur une verrue qu'on retrouve sur son corps. Rabbi Eliezer ben Me'avai Omer, Meidin. Rabbi Eliezer ben Me'avai dit qu'on peut s'appuyer sur une verrue pour identifier le corps d'une personne. Maïla va même Kamefrage, n'est-ce pas que c'est là-dessus qu'il discute. De Mar Savar, Simanim de Oraita. Rabbi Eliezer ben Me'avai pense que c'est Minatora qu'on peut s'appuyer sur des signes distinctifs. De Mar Savar, Simanim de Rabbanan. Alors que les Chachamim pensent que ce n'est que Midera Banan qu'on peut s'appuyer sur les signes distinctifs. Et donc dans notre Mishnah, où il s'agit d'un problème Minatora, de permettre à une femme de se marier, on ne pourra pas s'appuyer sur les signes distinctifs pour permettre à cette femme de se remarier. Amar Rava, Rava dit là-dessus, de Kul Alma Simanim de Raita. Toujours pourrais-je te dire que les deux avis, soit Rabbanan, soit Rabbi Eliezer ben Me'avai, pensent qu'on s'appuie sur les signes distinctifs Minatora. Mais ici, le problème est autre. Hacha Beshuma Mitsuya Beben Gino Kamifege. Leur discussion est à savoir si il est courant qu'une personne du même âge a aussi la même verrue. Il s'agit ici d'une personne qui est non seulement du même âge, mais qui est aussi née sous le même signe du zodiaque. Souvent, ces deux personnes ont les mêmes caractéristiques. Le problème est à savoir donc si il est courant que cette personne qui a les mêmes caractéristiques a aussi la même verrue. Camille Ferguez, c'est là-dessus qu'il discute. Mars, avar shuma mitzvah ben gilo. Les Chachamim pensent qu'il est courant que la personne du même âge, qui a les mêmes caractéristiques, a aussi la même verrue. Donc finalement, on ne pourra pas identifier le corps de cette personne en s'appuyant sur cette verrue. Omar Savar Enamutsuev Ben Gilo et Rabbi Eliezer Ben Me'avai pensent qu'il n'est pas courant que la personne du même âge et ayant les mêmes caractéristiques ait la même verrue aussi. Bika Damre, il y a une deuxième version qui explique différemment cette discussion entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Me'avai. Hachabes Shuma Hasuya Lishtanot Lacham Mita Kamiflagi. Leur discussion est à savoir si l'aspect d'une verrue peut changer après la mort d'une personne. Mar Savar Hasuya Lishtanot Lacham Mita. Les Chachamim pensent qu'une verrue peut changer d'aspect après la mort. Alors même si nous voyons maintenant une verrue d'un aspect qui permet d'identifier cette personne, il se peut qu'il s'agisse d'une autre personne et qu'en fait cette verrue avait un autre aspect et que son aspect a changé après la mort. Umar Savar Enasuya Lishtanot Lacham Mita et Rabbi Eliezer ben Me'avai pense que la verrue ne change pas après la mort. Bikra de Amre, il y a une troisième version qui explique donc cette discussion entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Me'avai. Amar Rava de Kul Alma Simanim de Rabbanan. Toujours pourrais-je te dire que soit Rabbanan, soit Rabbi Eliezer ben Me'avai pense que la raison, ce n'est que Mille Rabbanan qu'on s'appuie sur les signes distinctifs, par exemple pour rendre un objet perdu. Ve'acha, et ici leur discussion. Beshuma.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Davkuf Kaf Amud Bet. Siman Mouvahak Kamifalge. Leur discussion est à savoir si la verrue est un signe infaillible et donc on pourrait s'appuyer dessus, même Minat Torah, pour identifier la personne ou non. Mar Savar Siman Mouvahak. Rabbi Eliezer ben Me'avai pense que la verrue est un signe infaillible, et donc on peut s'appuyer dessus pour permettre à une femme de se marier, qui est un problème minatora. Omar Savar la siman mouvak. Et les Chachamim pensent que la verrue n'est pas un signe infaillible, et on ne pourra pas donc s'appuyer dessus pour permettre à cette femme de se remarier. Alagmar demande, Oulahach lishna de Amar Rava simanim doraita. Et selon la version selon laquelle Rava disait que soit Rabbanan, soit Rabbi Eliezer ben Me'avai pensaient qu'on peut s'appuyer sur les signes distinctifs Minatora. Et en fait, leur discussion était spécialement à propos de la verrue, comme nous l'avons expliqué plus haut. Ha katane afalpi shesh simanim begufo bekelav. Voici que dans notre Mishnah, il a été enseigné que même s'il y a des signes distinctifs sur son corps ou dans ses affaires, on ne pourra quand même pas identifier la personne. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces signes pour identifier cette personne, puisque finalement, on peut s'appuyer sur les signes distinctifs Minatora? Avec ma réponse, gufo de arof vegotz. il s'agit d'un cas où ces signes ne sont pas spécialement distinctifs à propos de cette personne. Il s'agit d'un cas, par exemple, à propos du corps, où on dit qu'il s'agit d'une personne de grande taille ou de petite taille. Quelle lave ? La raison pour laquelle on ne peut pas s'appuyer sur les signes distinctifs de ses affaires, des habits, de ses habits, des chayshinan lishela, parce qu'on craint que peut-être ses habits aient été prêtés à quelqu'un d'autre. Donc finalement, on ne peut pas identifier la personne selon ses habits. La Gemara demande, et si on craint qu'on prête des habits, comment est-ce qu'on rend l'âne en s'appuyant sur les signes distinctifs se trouvant sur sa selle, puisque finalement, il se peut que ce ne soit pas la selle de cet âne. La Gemara répond, habituellement, les gens ne prêtent pas une selle pour un âne, démasquivle le khamra, parce que cela blesse l'âne. En effet, l'âne est plus sensible et la selle est faite sur mesure. La Gemara demande, Matzo bekish ou be'arnakir betabat, echimadrinan. Le cas de la Mishnah de Maseret Gittin. On avait parlé de quelqu'un qui avait perdu un acte de divorce. Il l'a retrouvé par la suite, attaché à sa bourse, à son porte-monnaie ou à son sceau. Comment est-ce qu'on permet de définir qu'il s'agit effectivement de cet acte de divorce et qu'il peut divorcer la femme avec cet acte de divorce? Peut-être que ces objets ont été prêtés à quelqu'un d'autre et cet acte de divorce provient de quelqu'un d'autre. La Gemara répond que ce sont des objets qui ne sont jamais prêtés. Tabat de Chayish les Yufé. Une personne ne prête pas son sceau de peur qu'on falsifie des documents avec. Kizver Neke Menach Inche. À propos de la bourse et du porte-monnaie, les gens sont superstitieux, velo mouchelé, et ne prêtent pas leur bourse ou leur porte-monnaie de peur de voir leur chance partir avec. Et la deuxième partie de la Mishnah qui dit que s'il a trouvé cet acte de divorce parmi ses affaires aussi, il pourra s'en servir. Il s'agit aussi d'un cas d'affaires qui ne sont pas prêtées. Vibaitema, et s'il trouve à redire cette réponse, je t'en dirai une autre. Kelav, bechivre vesumke. Quand la Mishnah parle d'affaires ou des habits de la personne, il s'agit d'un cas où on dit qu'il s'agit d'habits blancs ou rouges, mais en fait ce ne sont pas des signes distinctifs. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Vafilurau Muguyad, etc. Même si on voit la personne gravement blessée, on ne pourra quand même pas témoigner de sa mort jusqu'à ce qu'on le voit effectivement mourir. La Gemara demande les Memra de Mguyad Chaye. On peut donc déduire de là que quelqu'un qui est profondément blessé ou gravement blessé peut continuer à vivre. Et c'est pourquoi donc on ne peut pas témoigner de sa mort. Et on oppose à ceci une Mishnah dans Oralot Perek Aleph. Adam et nom est amé. Un homme n'a pas l'impureté du mort et par conséquent ne transmet pas la Touma du mort. Jusqu'à ce que son âme le quitte, jusqu'à ce qu'il meure, effectivement. Même s'il est gravement blessé ou s'il est mourant, quand même, il ne transmet pas la Touma. T'es mouillé, l'homme est amé. La Gemara déduit donc qu'il ne transmet pas la Touma, il n'est pas considéré comme mort. Par contre, nous pouvons déduire de là qu'il ne vivra pas. Nous voyons donc clairement que quelqu'un qui est gravement blessé ne peut pas vivre. Alors on se demande pourquoi on ne peut pas témoigner de sa mort. La Gemara répond. Amar Abaye, la kasha, ce n'est pas une contradiction. Ha Rabbi Shimon ben Elazar, notre Mishnah, de laquelle nous pouvons déduire que quelqu'un qui est gravement blessé peut encore vivre, va selon l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Ha Rabbanan, la Mishnah dans Maseret Ohalot, de laquelle nous déduisons qu'une personne gravement blessée ne peut pas vivre, va selon l'opinion des Chachamim, des Tanya, ce que nous avons vu dans une Braïta. Meidin ala Meguyad, on peut témoigner de la mort d'une personne gravement blessée. Ve'en Meidin ala Tsalouv. Par contre, on ne peut pas témoigner de la mort de quelqu'un si on le voit pendu. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Afala Meguyad en Meidim, même sur quelqu'un de gravement blessé, on ne peut pas témoigner de sa mort. Nipne Sheachol, Lechavot Velichiot. Et cela parce que ses plaies peuvent être cautérisées, elles peuvent guérir et il peut continuer à vivre. La Gemara demande, Mi Matit Luk Mek Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce qu'on peut dire que notre Mishnah va selon la vie de Rabbi Shimon ben Elazar? Da, Katanesef, voici que dans la fin de la Mishnah, c'est-à-dire la Mishnah suivante, il est enseigné Maase Be'Asia, il y a une histoire dans l'endroit appelé Asia, Be'chad Shishil Sheluhu, le Yam, quelqu'un qui a descendu à la mer attaché à une corde, Velo Alta Be'Adam et la Raglo. Et quand on a remonté la corde, il n'y avait que le pied de cette personne qui y était attaché. Ve'amru Chachamim, les Chachamim ont dit à ce sujet, Min Ha'arkuva Ulema'ala, si quand le pied remonte, en fait il s'agit d'un pied qui a été coupé au-dessus du genou, Tinase, cette femme pourra se remarier. En effet, nous dirons qu'il est évident qu'il est mort. Minar Kuva ou le Mata, par contre, si le pied arrive, mais il a été coupé en dessous du genou, Lotinassé, elle ne pourra pas se remarier, parce que là, la blessure n'est pas suffisamment grave, il se peut qu'il ait survécu. Finalement, donc, nous voyons dans notre Mishnah qu'à la suite d'une blessure grave, c'est sûr qu'une personne mourra. Alors que selon l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar, on ne peut pas témoigner de la mort d'une personne à la suite d'une blessure grave. Donc ma réponse, Shani Maya de Marzumaka. Le cas de la personne tombée à l'eau est différent, parce que nous savons que l'eau aggrave la blessure et il est évident que cette personne n'a pas survécu. C'est pourquoi donc on pourra témoigner de sa mort. La Gemara demande, comment se fait-il que Rabbi Shimon ben Elazar dit qu'à la suite d'une blessure, une personne peut survivre en cotérisant ses plaies? Moi j'ai vu un arabe, Deshakil Sapsira, Degaide le Gamle. Il a pris une épée et il a profondément blessé son chameau. Et il est mort avant d'avoir fini de blatérer. Nous voyons donc bien de là qu'on ne peut même pas, on n'a même pas le temps de cautériser une blessure pour pouvoir la guérir et survivre. Agma répond, Amarabaye Haïk Rishavia. Il s'agissait d'un chameau qui était très faible, et c'est pourquoi donc, à la suite d'une blessure, il est mort immédiatement. Rava Amar, Rava propose une autre interprétation de notre Mishnah. Besakin Melubenet, dans le cas où on parle d'une personne profondément blessée dont on ne peut pas témoigner de sa mort, il s'agit d'un cas où il a été blessé avec un couteau chauffé à blanc. Ses plaies donc ont été cautérisées immédiatement, délivrées à col, et cette Mishnah donc va selon tout le monde, même selon les Chachamim. Eux sont d'accord dans ce cas-là où la blessure a été cautérisée, qu'il peut survivre. Et donc on ne pourra pas témoigner de sa mort. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit, Vahreya Ochelet, etc. Même si on voit une bête sauvage manger sa chair, on ne pourra pas témoigner de sa mort. Amar Aviuda Amar Shmuel, Lo Shanu Elami Makom Shel Nafsho Yotza. La Mishnah ne parle que d'un cas où l'endroit où cette bête sauvage mange la chair de cet homme n'est pas un endroit où son âme peut le quitter, c'est-à-dire pas dans un endroit vital. Par exemple, elle n'est pas en train de manger à sa gorge. Aval Mi Makom Shel Nafsho Yotza. Par contre, si on voit que cet animal est en train de manger la chair de cet homme là où il est évident qu'il mourra, par exemple à sa gorge, mais il dit, on pourra témoigner de sa mort. D'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Shachat Bo Shnai. Si on a égorgé une personne en coupant sa trachée artère et l'œsophage, au Rov Shnaim, ou bien la majorité de ses deux organes vitaux, ou Barach. Et cette personne qu'on a égorgé s'est sauvée, on ne sait pas où elle est, mais il dit, on peut témoigner de sa mort. Il est évident qu'il est mort. La Gemara demande, Eni, ce n'est pas vrai. Veha Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Shachat Bo Shnaim ou Rov Shnaim. Si on a égorgé une personne en coupant l'œsophage et la trachée artère, ou bien la majorité de ses deux organes vitaux, Veramaz Veamar. Et il a fait des signaux voulant dire « Qu'il vous guette l'ishti » et écrivait un acte de divorce à ma femme pour ne pas qu'elle soit candidate au Yiboum. « Hare elu yirtevu vitnu » Ils pourront écrire cet acte de divorce et pourront le donner à sa femme. Nous voyons bien donc de là qu'une personne qu'on a égorgée est encore vivante, sinon on ne pourrait pas écrire d'acte de divorce. L'Agma répond « Chayhu » Une personne qu'on a égorgée est effectivement encore vivante. « Vesofolamut » Mais il est évident qu'il mourra, on pourra donc témoigner de sa mort. La Gemara demande, et la Meata Yehe Gole Al Yado. La Gemara demande, si c'est comme ça, si une personne qui a été égorgée va évidemment mourir, alors si quelqu'un a tué par inadvertance une autre personne en faisant tomber un couteau et il a été égorgé, il devrait s'exiler comme doit le faire quelqu'un qui tue quelqu'un par inadvertance, comme c'est décrit dans Masechet Makot au troisième Perek. À la Matania, pourquoi elle a été enseignée clairement dans une Braïta, Shachat Shnaim Rov Shnaim. Si quelqu'un a égorgé par inadvertance quelqu'un en coupant l'œsophage et la trachée artère ou la majorité de ses deux organes, Harezé et Nogolé, il ne devra pas s'exiler. Nous voyons donc de cette braïta que ce n'est pas clair, pas évident qu'une personne qui a été égorgée va mourir. L'Agma répond, toujours pourrais-je te dire que quelqu'un qui a été égorgé, il est évident qu'il mourra, mais la raison pour laquelle une personne qui tue une autre personne par inadvertance en faisant tomber un couteau et en l'égorgeant, il ne sera pas donc puni par l'exil. Là, c'est différent, parce que Haït Marala, il a été spécialement dit sur cette braïta pour l'interpréter, Amar Rabbi Oshaya, Chayshinan Shema Haruach Bilbelato, on craint que ce n'est pas directement le fait qu'il a été égorgé qui l'a tué, mais c'est le vent qui est venu par la suite, qui a causé sa mort. Inami, ou bien autre possibilité, Shema Yihu.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.